Voici une question dont la réponse va sûrement encourager toutes nos auditrices. Qu'est-ce qu'une femme sage peut accomplir? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Quel beau moyen pour nous de grandir spirituellement. Je suis reconnaissante envers Dieu de nous permettre d'entendre tout ce bon enseignement, jour après jour. Voici les questions du jour. Y a-t-il des circonstances où nous devrions nous venger de nos ennemis? Est-il possible que le roi Saül ait été possédé d'un démon? Pourquoi Dieu a-t-il choisi David pour en faire le roi d'Israël? Qu'est-ce qu'une femme sage peut accomplir? Est-ce que la vérité dite en toute humilité peut être d'un grand secours? Restez avec nous. Dans quelques instants, on va recevoir tout un enseignement de la parole de Dieu. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous dire ce qui est écrit dans les Saintes Écritures en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est bon d'entrer dans ta présence, de te prier sachant que tu nous entends, que tu veux nous exaucer. Viens nous instruire aujourd'hui. On s'attend à toi, on s'attend à ce que tu nous dises de grandes choses parce qu'elles viennent de toi et tu es grand. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons fait un parallèle entre David, qui fut rejeté, et le Seigneur Jésus-Christ, qui fut aussi rejeté. Tout comme David accueillit les gens en détresse, les gens endettés et les mécontents, le Seigneur Jésus invite et accueille ceux qui sont dans la détresse et qui voient leurs besoins spirituels, ceux qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'être pardonnés et qui sont malheureux à cause du mal et de l'injustice dans ce monde. Nous avons aussi vu à quel excès peut mener l'amertume dans nos cœurs. Saül a fait périr la maison du prêtre Achimélec et les habitants de Nob, la ville sacerdotale, parce qu'Achimélec a donné des provisions et une épée à David lorsque celui-ci s'est enfui. L'amertume dans le cœur de chrétiens fait bien du tort à l'Église et aux organisations chrétiennes. Chers amis, débutons notre lecture, chapitre 24, où David est toujours en fuite et se déplace d'un endroit à un autre. 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 3. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. David s'est réfugié dans une région sauvage et rugueuse. Saül assembla 3000 hommes et se mit à la recherche de David. Il avait une armée plus nombreuse que celle de David, qui n'avait que 600 hommes. Cependant, les stratégies de David ainsi que sa connaissance du terrain compensaient pour son infériorité numérique. Verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Saül est entré dans la caverne où David se cachait avec des hommes. Il s'y est endormi. Les hommes de Saül surveillaient à l'extérieur de la caverne. Donc, à son insu, Saül se trouve seul dans la caverne où les hommes qu'il poursuit sont cachés. Verset 5. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Plutôt que de tuer Saül, son ennemi juré. David coupa un morceau de son vêtement. Versets 6 et 7. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Osons-nous en prendre à un serviteur de Dieu ?» Notez ici la crainte de Dieu qu'a David. Il ne touche pas loin de l'Éternel. David fut loin pour devenir roi, mais il laisse Dieu le placer sur le trône. Dieu le placera en son temps. David refuse de mettre la main sur loin de l'Éternel. Tout irait beaucoup mieux si nous laissions Dieu s'occuper de nos ennemis. En général, nous voulons nous en occuper nous-mêmes, alors que Dieu peut le faire plus efficacement. Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Lorsque nous prenons les choses en main, nous ne marchons plus par la foi. Nous ne faisons plus confiance à Dieu. En fait, nous disons à Dieu, « Seigneur, nous ne pouvons pas te faire confiance pour régler ce dossier à notre façon, donc nous allons le faire à ta place. » Par contre, David laisse à Dieu le soin d'enlever Saül du trône à sa façon. Laissons Dieu s'occuper de nos ennemis. Chers amis, avez-vous déjà provoqué la division dans l'œuvre de Dieu en entrant en conflit avec un autre croyant? Jugeant que celui-ci ne devrait pas occuper un poste, vous êtes parti en guerre contre lui plutôt que de laisser Dieu s'occuper de son serviteur et de ses affaires. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Romains, chapitre 14, verset 4. Revenons à notre texte. 1 Samuel, chapitre 24, verset 8. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Plusieurs des hommes de David avaient des comptes à régler avec Saül, et ils auraient aimé mettre la main sur lui, mais David les en empêcha. Versets 9 à 11. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. « David, dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne ? On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » David a prouvé au roi Saül qu'il ne voulait pas lui enlever la vie. Ceux qui disaient à Saül que David en voulait à sa vie le trompaient. Ce n'était absolument pas le cas. David était incompris, calomnié, et mal perçu par ses amis aussi bien que ses ennemis. Après cet incident, personne ne pouvait douter du fait que David ne désirait pas la mort de Saül, mais voulait plutôt son bien. Alors que David parle à Saül, des larmes lui viennent aux yeux. Versets 12 à 18. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera. Il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. » Notez ce que Saül reconnaît à haute voix pour la première fois. Versets 19 à 21. « Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. » C'est une confession étonnante de la part de Saül. Il voit que David a dit la vérité et il est touché par le fait que David lui a épargné sa vie. Saül reconnaît qu'un jour David siégera sur le trône d'Israël. Versets 22 et 23. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Après leur conversation, Saül se retire chez lui, mais David se rendit dans un lieu fort. David ne fait pas confiance à Saül. David se retire encore plus loin dans le désert, sachant que Saül se remettra à sa poursuite avant longtemps. Je pense que Saül était possédé d'un démon. La Bible dit qu'un esprit méchant est descendu sur lui. Maintenant, nous passons au chapitre 25, qui mentionne le décès de Samuel, ainsi que l'incident qui s'est passé entre David et Nabal, un descendant de Caleb. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Samuel, chapitre 25, verset 1er. Samuel mourut. Tout Israël, s'étant assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Les Écritures ne font que mentionner le décès de Samuel, qui fut, sans aucun doute, un grand homme de Dieu. Il était une personne exceptionnelle. Il fit la transition entre la période des juges et la période des rois. Il fut le premier juge et le premier à occuper les fonctions de prophète. Il y eut plusieurs prophètes avant Samuel, mais il fut le premier à exercer la fonction selon le rôle spécial de la période s'étirant des rois jusque dans le Nouveau Testament. La présence de Samuel restreignit probablement l'explosion de toute l'amertume qu'éprouvait Saül à l'égard de David. Le prophète dut avoir une influence calmante sur David et Saül. Lorsque Samuel est décédé, David s'est éloigné dans le désert, beaucoup plus loin que le fit Élie lorsqu'il s'est éloigné de Jézabel. Il faut s'attendre à être incompris dans ce monde. Quelqu'un a dit qu'être un personnage public connu, c'est être incompris. Quoi qu'il en soit, ce fut le cas pour David. Parce que le monde ne connaît pas David, il ne le juge pas bien. Lorsque l'on mentionne David, c'est l'adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, son mari, qui viennent à l'esprit des gens. De nombreuses personnes demandent comment David a pu faire un tel péché, alors qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Nous aurons l'occasion de répondre à cette question lorsque nous étudierons l'épisode. Mais plutôt que de mettre en doute le choix de Dieu, nous devrions examiner le caractère de David. Nous verrons que seuls les ignorants critiquent le choix de Dieu à l'égard de David. C'est un des personnages exceptionnels de la Bible. Et le connaître, c'est l'aimer. David avait un caractère très noble. La carrière de David fut variée. Il est né dans une famille paysanne de Bethléem. Il était le fils d'Isaïe, de la tribu de Juda. Jeune, il était berger. Ses 7 frères aînés étaient plus considérés que lui. Mais un jour, sa vie prit un nouveau tournant. Dieu, qui connaissait son cœur, l'a choisi afin qu'il règne sur Israël. Dieu n'a pas regardé l'apparence extérieure, mais à son cœur. en choisissant David. Il envoya Samuel loindre roi. Il a combattu Goliath. Musicien, il composa des psaumes merveilleux. Si vous en doutez, lisez les psaumes. Où trouver d'égal chef-d'œuvre? David épousa la princesse Michal, fille du roi Saül. Il n'y a jamais eu d'amitié comme celle entre David et Jonathan, fils de Saül. David devint un hors-la-loi. Il a vécu dans le désert et il s'est caché dans des cavernes avec 400 hommes. Puis, il devint roi de Juda, ensuite roi de tout Israël. Il a dû fuir devant un de ses fils qui s'est rebellé contre lui. Il a vu son fils Salomon se faire oindre roi d'Israël. Cependant, plutôt que de s'arrêter sur le péché de David et de Bathsheba, oublions le combat avec Goliath, les exploits de David et son amitié avec Jonathan, et examinons l'histoire simple de ce prochain chapitre. Elle révèle le cœur de David. C'est l'histoire de David et d'Abigaïl, une histoire qui révèle le caractère de David. Chers amis, poursuivons notre lecture de 1 Samuel, chapitre 25, versets 2 et 3. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Tous les descendants de Caleb ne furent pas comme leurs ancêtres. Nabal signifie fou. J'ignore pourquoi ses parents lui ont donné ce nom, mais il le portait bien. Mais ne sommes-nous pas tous nés fous? N'avons-nous pas tous fait des choses idiotes que nous aimerions oublier? Nabal était un fou riche. Sans honneur, malhonnête et alcoolique. Cependant, il avait le privilège d'avoir une femme belle et intelligente. Versets 4 et 5. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. » David avait protégé les biens de Nabal. Il ne les avait pas pillés, et de plus, il avait empêché les maraudeurs d'en faire autant. Il a rendu service à Nabal, et maintenant qu'il a besoin de provisions, il envoie des jeunes hommes vers Nabal. Versets 9 à 12. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. « Qui est David, et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Nabal n'a pas de gratitude et David se met en colère. Verset 13. Alors David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un serviteur de Nabal vient avertir Abigaïl du malheur qui est sur le point de s'abattre sur la maison de Nabal. Verset 14. Un des serviteurs de Nabal vient dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici. David envoyait du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Abigaïl a deviné comment réagira David et elle ramasse des provisions en grande quantité. Versets 18 à 20. Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur une âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Abigaïl va au-devant de David pour l'intercepter avant qu'il ne tue Nabal et ses serviteurs. Verset 21. David avait dit, « C'est en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. » David a vraiment l'intention de détruire la maison de Nabal. Versets 23 et 24. Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David, et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. » Une femme est un don de l'Éternel. David éprouve de la colère, alors qu'il est en route vers la maison de Nabal. Soudain, il aperçoit une belle femme qui arrive au-devant de lui avec des provisions. Il s'arrête et la femme descend de son âne et se prosterne devant lui. C'est la première fois que David, loin de l'Éternel, se trouve en présence d'une femme noble qui lui veut du bien. Elle demande à David de se venger sur elle, car elle est l'épouse de Nabal, ce que David ne fera certainement pas. Abigaïl a agi avec beaucoup de sagesse. Elle s'excuse pour la folie de son mari. Par sa diplomatie, elle a sauvé son mari, ainsi que tous ses serviteurs. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. La vérité dite en toute humilité peut être d'un grand secours, chers amis. Abigaïl dit la vérité avec humilité. C'est souvent la meilleure façon de se tirer d'une mauvaise situation et d'amener quelqu'un à de meilleures dispositions. Je connais un chrétien dont un créancier a annulé une dette importante lorsqu'il a reconnu sa mauvaise gestion et a demandé pardon à ce créancier pour ses retards à rembourser. C'est l'attitude qui honore notre grand Dieu. Être humble, de s'humilier devant lui et devant les hommes, reconnaître nos torts, nos fautes, nos erreurs, les confesser. Peu de gens, malheureusement, le font, et pourtant, c'est l'attitude avec laquelle nous pouvons recevoir les bienfaits de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà ce que la Bible déclare. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, et les récits qui nous sont rapportés dans la Bible, nous voyons que Dieu a béni ceux qui ont eu ce comportement d'humilité, d'abaissement, de reconnaître l'être qu'ils sont devant Dieu et devant leurs semblables. Personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. Reconnaissons-le, chers amis. Confessons-le envers Dieu premièrement. La Bible déclare que nous sommes tous des pécheurs. Donc, nous sommes tous des personnes qui commettent des gestes d'injustice à l'égard de la très sainte loi de Dieu. Reconnais ta culpabilité. Reconnais que tu es responsable devant Dieu d'avoir offensé sa sainteté. Confesse-le, et il pourra par le fait même te rétablir, te pardonner, te réconcilier, et d'avoir un accès auprès de lui en tout temps. Car si tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur, l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Repens-toi et crois. Prochaine émission, 1 Samuel, chapitre 25, verset 25, à chapitre 26, verset 25.
Merci beaucoup, Régent. Je suis toujours profondément touché par la manière dont David s'est comporté devant la méchanceté de Saül à son égard. Il ne s'est jamais vengé de tout le mal qu'il lui avait fait. Il aurait même pu le faire à quelques reprises et il a refusé de se venger. Quel bel exemple pour nous. Je connais un homme qui agit comme David. Je ne vous le nommerai pas parce que je suis certaine qu'il n'aimerait pas ça. Cet homme a des idées qui ne ressemblent pas à celles de tout le monde. C'est un homme qui ne croit pas que la tradition soit nécessairement ce que Dieu nous demande d'observer. Il amène donc les gens à faire des pas de plus que ce que l'on ferait si on observait toujours la tradition. Les personnes qui sont influencées par cet homme grandissent rapidement, apprennent à servir Dieu plus efficacement et ne s'endorment pas dans la routine du formalisme. C'est merveilleux. Mais il y a des gens que ça dérange de voir ces choses. Ces personnes s'opposent souvent à cet homme. Et il y en a qui disent du mal de lui, du mal qui est loin d'être bien fondé. Mais lui ne cherche pas à se venger. Il n'excuse pas ces gens, il sait qu'ils ont tort d'agir ainsi envers lui. Mais il pardonne le mal que ces personnes lui font. Et il leur rend même le bien pour le mal, comme la Bible nous l'enseigne. Le résultat dans sa vie, c'est qu'il jouit d'une grande paix et qu'il continue à avancer dans les voies de Dieu avec de plus en plus de gens qui adoptent sa manière de faire, qui, au fait, est bien biblique. Cet homme aime la parole de Dieu et fait tout pour la mettre en pratique et pour enseigner aux autres d'en faire de même. Je remercie le Seigneur de nous donner des modèles comme lui et comme d'autres qui ont influencé ma vie. Bien sûr, notre modèle par excellence, bien, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais je suis bien contente qu'il nous donne des modèles à imiter sur cette terre, des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique et qui enseignent aux autres à le faire. Pour ma part, je peux dire qu'il m'est arrivé quelquefois d'avoir à pardonner à des gens qui m'ont persécuté, comme je pense que ça arrive à tous les croyants qui n'ont pas honte de s'affirmer en tant que chrétiens, disant aux gens qu'il y a un Dieu merveilleux qui les aime et qui a manifesté cet amour en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, veux-tu devenir un enfant de Dieu? Veux-tu recevoir le don gratuit de la vie éternelle? Veux-tu être certain que le jour où tu mourras, tu iras tout droit au ciel pour l'éternité? Eh bien, reconnais que tu es un pécheur perdu. Détourne-toi de ta vie de péché. Demande à Dieu de te pardonner. Accepte Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Demande-lui de te sauver. C'est pour toi qu'il a souffert, qu'il est mort sur une croix il y a 2000 ans. Mais il est ressuscité le troisième jour. Jésus est vivant. Il frappe à ta porte en ce moment. Si tu entends sa voix à travers la mienne, eh bien, ouvre la porte de ton cœur et laisse-le entrer. Il va faire sa demeure chez toi. Tu vas goûter à sa présence dès maintenant et tu vas vivre avec lui pour l'éternité. Jésus te donne l'opportunité de devenir un enfant de Dieu et tu ne sais pas si tu vas avoir cette opportunité demain. Saisis la main du Seigneur. Saisis le salut qu'il veut te donner. Il veut te pardonner, te donner la vie éternelle. Tu peux devenir un enfant en ce moment. Demande-lui, dis-lui, Seigneur, sauve-moi. C'est sûr qu'il va le faire si tu es sincère dans ton cœur et tu vas devenir un enfant de Dieu.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir, ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.